Chapitre 28. La folie de Monsieur Croupeton. Le dimanche après le petit déjeuner, Harry, Ron et Hermione montèrent à la volière pour envoyer à Percy une lettre dans laquelle ils lui demandaient, comme l'avait suggéré Sirius, s'il avait vu Monsieur Croupeton récemment. Ils confirent la lettre à Edwige, qui n'avait pas eu l'occasion de travailler depuis longtemps. Lorsqu'elle se fut envolée par la fenêtre, ils descendirent à la cuisine pour donner à Dobby ses nouvelles chaussettes. Les elfes de maison leur réservèrent un accueil enthousiaste, multipliant courbettes et révérences et s'affairant à leur préparer du thé. Dobby eut une expression d'extase en découvrant son cadeau.
« Harry Potter est trop bon pour Dobby !»
couina-t-il en essuyant les grosses larmes qui coulaient de ses yeux énormes. « Tu m'as sauvé la vie avec cette branchiflore, Dobby, » dit Harry. « C'est vrai, tu sais. Il ne resterait pas quelques-uns de ces délicieux éclairs par hasard ?» demanda Ron aux elfes radieux qui ne cessaient de s'incliner devant lui. « Tu viens de prendre ton petit déjeuner !» s'exclama Hermione d'un ton irrité. Mais un grand plateau chargé d'éclairs arrivait déjà vers eux, porté par quatre elfes. « On devrait prendre quelque chose pour Sniffle, » murmura Harry. « Bonne idée, » dit Ron. « Comme ça, Coq aura un peu de travail. Vous pourriez nous donner des provisions ?» demanda-t-il aux elfes qui l'entouraient. Ceux-ci s'inclinèrent d'un air ravi et s'empressèrent d'aller chercher de quoi le satisfaire. « Dobby, où est Winky ?» interrogea Hermione en regardant autour d'elle.
« Winky est là-bas, près du feu, miss. »
répondit Dobby à voix basse, des oreilles légèrement tombantes. « Oh là là !» dit Hermione lorsqu'elle l'aperçut. Harry se tourna lui aussi vers la cheminée. Winky était assis sur le même tabouret que la fois précédente, mais elle était devenue si sale qu'on avait du mal à la distinguer des briques noircies par la suie. Ses vêtements en lambeaux n'avaient pas été lavés depuis des jours. Les yeux fixés sur les flammes, elle vacillait légèrement sur son tabouret, la main crispée sur le goulot d'une bouteille de bière au beurre. Soudain, elle laissa échapper un énorme hoquet.
« Winky en est à 6 bouteilles par jour !»
murmura Dobby à Harry. « Oh, c'est pas très fort, ce genre de boisson !» fit remarquer Harry. Mais Dobby hocha la tête.
« C'est fort pour un elfe de maison, monsieur !»
Winky eut un nouveau hoquet. Les elfes qui avaient apporté les éclairs lui lancèrent des regards réprobateurs, tandis qu'il retournait travailler.
« Winky est rongé de chagrin, Harry Potter !»
murmura Dobby avec tristesse.
« Elle veut rentrer à la maison. Winky pense encore que M. Croupeton est son maître, monsieur, et rien de ce que lui dit Dobby ne peut la persuader que son maître, c'est le professeur Dumbledore maintenant. »«
Hé, Winky !» dit Harry, frappé par une soudaine inspiration. Il s'approcha d'elle et se pencha pour lui parler. « Tu ne saurais pas, par hasard, ce que fait M. Croupeton en ce moment ? Il n'est pas revenu juger le tournoi. » Winky cligna des yeux, ses énormes pupilles se fixèrent sur Harry, elle vacilla à nouveau, puis dit
« Mon maître ne vient plus. »
« Non, répondit Harry, on ne l'a plus vu depuis la première tâche. D'après la gazette du sorcier, il est malade. » Winky vacilla encore davantage et regarda Harry avec des yeux vitreux.
« Mon maître est malade. »
Ses lèvres se mirent à trembler. « Mais on n'est pas sûr que ce soit vrai, » dit précipitamment Hermione.
« Mon maître a besoin de sa Winky, »
gémit l'elfe.
« Mon maître ne peut pas se débrouiller tout seul, voilà. »
« Tu sais, Winky, en général, les gens arrivent très bien à s'occuper eux-mêmes de leur maison, » dit Hermione d'un air sévère.
« Winky ne s'occupe pas seulement de la maison de Monsieur Croupeton. »
s'indigna Winky d'une petite voix perçante. Elle vacilla dangereusement sur son tabouret et renversa de la bière au beurre sur son corsage déjà abondamment taché.
« Mon maître a confié à Winky le plus important, le plus secret. »«
Quoi ?» s'exclama Harry. Mais Winky hocha vigoureusement la tête en signe de dénégation et renversa un peu plus de bière au beurre.
« Winky garde... « Les secrets de son maître !»
dit-elle d'un air farouche. Ses yeux louchés en regardant Harry, elle se balança de plus en plus et ajouta les sourcils froncés.
« Vous êtes un fouineur !»« Oui. Winky ne doit pas parler comme ça, Harry Potter !»
s'exclama Dobby avec colère.
Harry Potter est noble et courageux, c'est pas un fouineur. Si, 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 il veut fouiner dans la vie privée les secrets de mon maître,
dit Winky.
Winky est un bon elfe de maison. Winky ne dit rien. Il dit rien aux gens qui essaient de savoir.
Les paupières de Winky s'abaissèrent et soudain elle glissa de son tabouret, s'affala devant la cheminée et se mit à ronfler bruyamment, tandis que la bouteille vide de bière au beurre roulait sur le sol d'allée. Une demi-douzaine d'elfes se précipitèrent, l'air dégoûté. L'un d'eux ramassa la bouteille, les autres recouvrirent Winky d'une grande nappe à carreaux en la bordant de tous côtés pour la cacher entièrement.
« Nous sommes désolés que vous ayez vu ça, messieurs et miss. »
Quina, l'un des elfes qui hochait la tête d'un air honteux.
« Nous espérons que vous ne jugerez pas d'après Winky, messieurs et miss. »«
Elle est malheureuse, » répliqua Hermione d'un ton exaspéré. « Pourquoi n'essayez-vous pas de lui remonter le moral au lieu de la cacher sous une nappe ?»«
Je vous demande pardon, miss, »
répondit l'elfe en s'inclinant bien bas.
« Mais les elfes de maison n'ont pas le droit d'être malheureux tant qu'il y a du travail à faire et des maîtres à servir. »«
Ça suffit !» dit Hermione avec colère. « Écoutez-moi tous. Vous avez autant le droit que les sorciers d'être malheureux. Vous avez droit à un salaire, à des vacances, à des vêtements convenables, et vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qu'on vous dit de faire. Regardez Dobby, par exemple. »«
Miss, s'il vous plaît, laissez Dobby en dehors de tout ça. »
marmonna Dobby, l'air apeuré. Les sourires joyeux avaient disparu des visages. Autour de la cuisine, les elfes regardaient à présent Hermione comme si elle était folle et dangereuse.
« Voici les provisions que vous avez demandées. »
Quina, un elfe à côté de Harry en lui mettant dans les bras un gros jambon, une douzaine de gâteaux et des fruits.
« Au revoir. »
Les autres elfes se regroupèrent autour de Harry, de Ron et d'Hermione et entreprirent de les faire sortir de la cuisine, leurs petites mains les poussant au creux des reins.
« Merci pour les chaussettes, Harry Potter !»
s'écria Dobby d'une voix consternée. Il était resté devant la cheminée à côté de la nappe informe qui recouvrait Winky. « Tu n'aurais pas pu la fermer, Hermione ?» dit Ron d'un ton furieux lorsque la porte de la cuisine se fut brutalement refermée derrière eux. « Ils ne voudront plus qu'on vienne les voir maintenant. On aurait pu essayer de convaincre Winky de nous en dire plus sur Croupton. »« Comme si ça t'intéressait, » répliqua Hermione d'un air hautain. « Tout ce qui t'importe, quand tu viens ici, ce sont les gâteaux. » Le reste de la journée se passa dans un climat d'irritabilité. Harry en avait tellement assez d'entendre Ron et Hermione se disputer dans la salle commune de Gryffondor qu'il monta tout seul dans la volière ce soir-là pour envoyer à Sirius ses provisions. Coxigru était trop petit pour porter tout seul un jambon entier jusqu'à la montagne de Préolard, et Harry préféra confier cette mission à deux hiboux petits ducs de l'école. Lorsqu'ils se furent éloignés dans le crépuscule, volant étrangement de travers sous le poids du gros jambon, Harry resta accoudé au rebord de la fenêtre et regarda le parc, la silhouette sombre des arbres de la forêt interdite, dont la cime oscillait au loin, et les voiles du vaisseau de Durmstrang qui ondulaient sous la brise. Il vit un hibou grand-duc traverser les volutes de fumée qui s'élevaient de la cheminée de Hagrid. Le hibou vola vers le château, contourna la volière, puis disparut un peu plus loin. Harry baissa les yeux et aperçut Hagrid qui creusait avec énergie devant sa cabane. Il se demanda ce qu'il pouvait bien faire. On aurait dit qu'il préparait un nouveau potager. Madame Maxime sortit alors du carrosse de Beaux Bâtons et s'avança vers lui. Elle semblait vouloir engager la conversation, mais Hagrid, appuyé sur le manche de sa pelle, n'avait pas l'air disposé à parler très longtemps, car Madame Maxime retourna bientôt vers son carrosse. Harry n'avait pas très envie de revenir à la tour de Gryffondor pour entendre Ron et Hermione se disputer, et il préféra rester là, à regarder Hagrid creuser la terre, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse dans la nuit tombante, tandis que les hiboux de la volière se réveillaient et s'envolaient par la fenêtre dans un bruissement d'ailes. Le lendemain, au petit déjeuner, la mauvaise humeur de Ron et d'Hermione s'était estompée et, au grand soulagement de Harry, les sombres prédictions de Ron selon lesquelles les elfes de maison leur enverraient désormais des plats de moins bonne qualité pour punir Hermione de les avoir insultés se révélèrent infondées. Le lard, les œufs et les harengs étaient aussi succulents que d'habitude. Lorsque les hiboux apportèrent le courrier, Hermione leva les yeux d'un air impatient comme si elle attendait quelque chose. « Perfi n'a pas eu encore le temps de nous répondre, » dit Ron. « On lui a envoyé Edwige hier seulement. »« C'est pas ça que j'attends, » répondit Hermione. « Je me suis abonné à la Gazette du Sorcier. J'en ai assez que ce soit toujours les Serpentards qui nous donnent les nouvelles. »« Bonne idée, » dit Harry, qui regardait également les hiboux. « Tiens, Hermione, je crois que tu as de la chance. Une chouette laponne descendait vers elle. Elle n'a pas de journal, dit Hermione, l'air déçu. C'est... Elle vit avec surprise la chouette laponne se poser devant son assiette, suivie de près par 4 chouettes effraies et 2 hulottes. Tu as pris combien d'abonnements ? Demanda Harry. Il eut tout juste le temps d'attraper le gobelet d'Hermione avant qu'il ne soit renversé par les chouettes qui se pressaient vers elle, chacune voulant être la première à lui donner sa lettre. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» s'étonna Hermione en prenant la lettre attachée à la patte de la chouette laponne. Elle la retira de son enveloppe et commença à la lire.
« Incroyable !»
balbutia-t-elle le teint rougissant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Ron.
« C'est ridicule !»
Elle donna la lettre à Harry qui remarqua qu'elle n'était pas écrite à la main mais composée à l'aide de lettres apparemment découpées dans la gazette du sorcier et collées les unes à côté des autres. « Espèce de dévergondé, Harry Potter mérite mieux que toi, retourne chez les moldus.
Elles sont toutes comme ça !»
s'exclama Hermione d'un air consterné en ouvrant les lettres les unes après les autres. « Harry Potter vaut beaucoup mieux que tes semblables. Tu mérites qu'on te fasse bouillir avec des œufs de grenouille. » Lorsqu'elle eut ouvert la dernière enveloppe, un liquide verdâtre, dégageant une forte odeur d'essence, ruissela sur ses mains qui se couvrirent aussitôt de gros furoncles jaunes.
« C'est du pu de Bulbo Bub !» dit Ron en reniflant l'enveloppe. « Et non dilué en plus !»« Aïe !» s'écria Hermione les larmes aux yeux. Elle essaya de s'essuyer les mains avec une serviette, mais ses doigts étaient recouverts de cloques douloureuses. On aurait dit qu'elle avait mis des gants en peau de poulpe.
« Tu ferais mieux d'aller tout de suite à l'infirmerie, » dit Harry, tandis que les chouettes reprenaient leur vol. On expliquera au professeur Chourave ce qui t'est arrivé.
« Je l'avais prévenu, » dit Ron en regardant Hermione sortir précipitamment de la grande salle. « Je lui avais dit de ne pas énerver Rita Skeeter. Tiens, regarde cette fille. »
Il lut à haute voix l'une des lettres qu'Hermione avait laissées sur la table.
« J'ai lu, dans Sorcier Hebdo, comment tu t'es moqué de Harry Potter alors que ce garçon a déjà connu de grands malheurs et je vais t'envoyer un mauvais sort par un prochain courrier dès que j'aurai trouvé une enveloppe assez grande. »
Eh ben, dis-donc, elle a intérêt à faire attention. Hermione ne se montra pas au cours de botanique. Lorsque Harry et Ron sortirent de la serre pour se rendre au cours de soins aux créatures magiques, ils virent Malfoy, Crabbe et Goyle qui descendaient les marches de pierre du château. Derrière eux, Pansy Parkinson, entouré de ses amis de Serpentard, parlait à voix basse, en pouffant de rire. Dès qu'elle aperçut Harry, elle lui lança.
« Potter, tu as rompu avec ta petite amie ou quoi ? Elle n'a pas l'air contente ce matin. »
Harry ne lui prêta aucune attention, il ne voulait pas lui donner la satisfaction d'apprendre à quel point l'article de Sorcière Hebdo avait été désastreux. Hagrid leur avait annoncé, lors du dernier cours, qu'il en avait fini avec les licornes. Il les attendait devant sa cabane, de nouvelles boîtes disposées à ses pieds. Lorsqu'il les vit, Harry ressentit un instant d'angoisse. S'agissait-il d'une nouvelle couvée de scrouts ? Mais en s'approchant, il aperçut des animaux à fourrure noire, avec de longs museaux et des pattes avant, étrangement plates, comme des pelles. De toute évidence, les créatures ne comprenaient pas l'attention dont elles faisaient l'objet et regardaient les élèves d'un air poliment intrigué.
« Ce sont des nifleurs !» dit Hagrid lorsque tout le monde se fut rassemblé autour de lui. « On les trouve principalement dans les mines. Ils aiment bien tout ce qui brille. Tenez, vous voyez ?»
Pansy Parkinson fit un bond en arrière en poussant un cri perçant. L'un des nifleurs venait de lui sauter dessus et lui mordiller le poignet pour essayer de lui arracher sa montre.
« Ils sont très utiles pour découvrir les trésors, »
expliqua Hagrid d'un ton joyeux.
« J'ai pensé qu'on pourrait s'amuser un peu, hein ? Vous voyez là-bas ? »
Il montra le carré de terre que Harry l'avait vu creuser depuis la volière.
« J'ai enterré quelques pièces d'or. J'offre une récompense à qui on déterrera le plus grâce à son nifleur. Enlevez vos objets de valeur, choisissez chacun un nifleur et tenez-vous prêt à le lâcher. »
Harry ôta de son poignet la montre cassée qu'il continuait de porter par habitude et la glissa dans sa poche. Puis il prit un nifleur qui lui flaira avidement l'oreille avec son long museau. Il fut surpris de voir à quel point l'animal était affectueux.
« Attendez !»
dit Hagrid en regardant l'une des boîtes.
« Il y a un nifleur en trop. Qu'est-ce qui est absent ? Oh, où est Hermione ?»«
À l'infirmerie, » dit Ron.
« On vous expliquera plus tard, » murmura Harry. Pansy Parkinson écoutait attentivement. Jamais il ne s'était autant amusé à un cours de soins aux créatures magiques. Les nifleurs plongeaient dans la terre et en ressortaient avec autant de facilité que si c'était de l'eau, chacun se précipitant vers l'élève qu'il avait choisi pour lui recracher de l'or dans la main. Celui de Ron se montra particulièrement efficace et le couvrit d'or.
« Est-ce qu'on peut en acheter comme animaux de compagnie, Hagrid ?»
demanda-t-il avec enthousiasme, tandis que son nifleur se remettait à creuser en l'éclaboussant de terre.
« Oh, ça m'étonnerait que ta mère soit d'accord, » répondit Hagrid avec un grand sourire. « Les nifleurs cassent tout quand on les met dans une maison. Non, je crois qu'ils ont dû tout déterrer maintenant, » ajouta-t-il en faisant le tour du carré de terre. « Je n'avais caché qu'une centaine de pièces. Oh, voilà Hermione !»
Hermione traversait la pelouse pour les rejoindre, les mains entièrement recouvertes de bandages et les rabattues. Pansy Parkinson l'observa avec de petits yeux perçants.
« On va avoir vos résultats, dit Hagrid. Comptez vos pièces. Et ça ne sert à rien d'essayer d'en voler, Gruil. »
ajouta-t-il avec un regard noir.
« C'est de l'or de farfadé. Il disparaît tout seul au bout de quelques heures. »
Goyle vida ses poches l'air boudeur. Le nifleur qui avait déterré le plus de pièces était celui de Ron, à qui Hagrid donna la récompense promise, une énorme tablette de chocolat de chez Honeydukes. La cloche retentit, annonçant l'heure du déjeuner, et les élèves reprirent le chemin du château. Mais Harry, Ron et Hermione restèrent avec Hagrid pour l'aider à remettre les nifleurs dans leur boîte. Harry remarqua que Madame Maxime les observait derrière une fenêtre du carrosse.
« Qu'est-ce que tu te fais aux mains ?»
s'inquiéta Hagrid. Hermione lui parla des lettres de menace qu'elle avait reçues et de l'enveloppe, pleine de pus de bubobulbe.
« Bon, ne t'inquiète pas, »
dit Hagrid d'une voix douce.
« Moi aussi, j'en ai eu des lettres comme ça, après l'article de Rita Skeeter sur ma mère. » Avec des choses du genre « Vous êtes un monstre, on devrait vous abattre » ou encore « Votre mère a tué des innocents et si vous aviez un peu de dignité, vous vous jetteriez dans le lac. »«
Non !» s'exclama Hermione outrée.
« Mais si, mais si !»
dit Hagrid en rangeant les boîtes de nifleurs le long du mur de sa cabane.
« Ce sont des cinglés, tout simplement. Ne les ouvre pas si tu en reçois d'autres. Jette-les au feu. »
« Tu as manqué un très bon cours, » dit Harry à Hermione sur le chemin du château. « C'est vraiment bien les nifleurs, pas vrai, Ron ?»
Ron, cependant, fronçait les sourcils en regardant le chocolat que Hagrid lui avait donné. Il avait l'air préoccupé par quelque chose.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Harry. « Tu ne l'aimes pas, ce chocolat ?»«
C'est pas ça, »
répondit Ron d'un ton brusque.
« Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos de cet or ?»«
L'or de farfadé que je t'ai donné dans la loge pour te rembourser des multiplettes. »
Pourquoi tu m'as pas dit qu'il avait disparu ?
Harry dut réfléchir un moment avant de comprendre de quoi Ron voulait parler.
« Ah oui, » dit-il en se rappelant enfin. « Je sais pas. Je n'avais jamais remarqué qu'il avait disparu. J'étais beaucoup plus inquiet d'avoir perdu ma baguette magique. »
Ils montèrent les marches du château et se dirigèrent vers la grande salle pour aller déjeuner.
« Ça doit être bien, » dit Ron après s'être servi du rose-bif et de la sauce, « d'avoir tellement d'argent qu'on peut perdre une poignée de galions sans même s'en apercevoir. »
« Écoute, j'avais d'autres choses en tête cette nuit-là, » répliqua Harry avec impatience. « Tout le monde avait d'autres soucis, tu te souviens ?»«
Je ne savais pas que l'or de farfadé disparaissait, » marmonna Ron. « Je croyais que je t'avais remboursé. Tu n'aurais pas dû m'offrir ce chapeau des canons de Chudley pour Noël. »« N'y pense plus, d'accord ?» dit Harry.
Ron planta sa fourchette dans une pomme de terre et la regarda d'un air furieux. Puis il ajouta,
« J'ai horreur d'être pauvre. »
Harry et Hermione échangèrent un regard. Ni l'un ni l'autre ne savaient que répondre.
« C'est vraiment lamentable, » dit Ron, l'œil toujours fixé sur la pomme de terre. « Je comprends que Fred et George essaient de gagner un peu d'argent en plus. J'aimerais bien pouvoir en faire autant, si seulement j'avais un nifleur. »«
Comme ça, on saura quoi t'offrir à Noël prochain, » dit Hermione d'un air joyeux. Puis, voyant Ron toujours aussi mélancolique, elle ajouta.
« Allez, Ron, ça pourrait être pire. Toi, au moins, t'as pas les doigts pleins de pus. »
Les mains d'Hermione étaient si raides, si enflées, qu'elle avait les plus grandes difficultés à manier son couteau et sa fourchette.
« Je hais cet horrible Skeeter !» s'exclama-t-elle avec férocité. « Je lui ferai payer ça, même si c'est la dernière chose que je dois faire dans ma vie. »
Au cours de la semaine suivante, Hermione continua de recevoir des lettres de menaces. Elle avait suivi le conseil de Hagrid et avait cessé de les ouvrir.
mais plusieurs de ses correspondants anonymes lui envoyèrent des beuglantes qui explosèrent à la table des Griffons d'or en hurlant des insultes d'une voix si perçante qu'elle résonnait dans toute la grande salle. Même ceux qui ne lisaient pas Sorcière Hebdo furent bientôt au courant du prétendu triangle Harry Krum Hermione, et Harry en avait assez d'être obligé de répéter sans cesse qu'Hermione n'était pas sa petite amie. Si on n'y fait pas attention, ça finira par se calmer, dit-il à Hermione. Les gens ont fini par se lasser de ce qu'elle a écrit sur moi la dernière fois. Je veux savoir comment elle s'y prend pour écouter les conversations privées alors qu'elle n'a plus le droit de mettre les pieds à Poudlard, dit Hermione avec colère. À la fin du cours de défense contre les forces du mal, elle alla demander quelque chose au professeur Maugret pendant que le reste de la classe se ruait vers la sortie avec soulagement. Maugret les avait soumis à des tests si rigoureux de défense contre les maléfices que beaucoup d'entre eux avaient été légèrement blessés. Harry avait reçu de plein fouet un sortilège de folle oreille particulièrement redoutable qui l'obligeait à garder les mains plaquées de chaque côté de sa tête pour empêcher ses oreilles de s'agiter dans tous les sens. « On peut être sûr que Rita n'utilise pas de cape d'invisibilité », annonça Hermione le souffle court en rattrapant Harry et Ron dans le hall d'entrée. Elle saisit la main de Harry et la tira vigoureusement pour qu'il puisse l'entendre. Son oreille se remit aussitôt à se tortiller avec frénésie. Maugret m'a dit qu'il ne l'avait vu nulle part pendant la deuxième tâche. « Hermione, si on te demandait de laisser tomber cette histoire, tu nous écouterais ?» dit Ron. « Non, répondit Hermione d'un air buté. Je veux absolument savoir comment elle s'y est prise pour entendre ma conversation avec Victor et comment elle a fait pour découvrir qui était la mère de Hagrid.
« Peut-être qu'elle a mis des micros, » suggéra Harry.
« Quoi ? Des petits gros ?» dit Ron sans comprendre. S'il y avait des petits gros qu'on ne connaissait pas, on les aurait remarqués. Non, des micros, rectifia Harry. On en trouve qui ne sont pas plus gros que des insectes, impossible de les voir.
Harry lui donna quelques explications sur les micros cachés et les magnétophones.
Ron était fasciné. Mais Hermione les interrompit. Est-ce qu'un jour vous allez enfin prendre la peine de lire l'histoire de Poudlard, tous les deux ?
À quoi ça servirait ? Dit Ron. Tu connais le bouquin par cœur, il suffit de te demander.
Tout ce que les moldus ont inventé pour remplacer la magie, l'électricité, les ordinateurs, les radars et tous ces machins-là, ne peut pas fonctionner à Poudlard. Il y a trop d'ondes magiques dans l'air. Il se détraquerait complètement. Non, Rita doit se servir d'un artifice de sorcellerie pour écouter les gens. C'est impossible autrement. Si seulement j'arrivais à découvrir ce que c'est, et si jamais c'est illégal, tac, je la tiens.
Tu trouves pas qu'on a déjà assez de soucis comme ça ? Demanda Ron. Tu crois vraiment que c'est le moment de chercher à se venger de Rita Skeeter ?
Je ne te demande pas de m'aider, répliqua Hermione d'un ton sec. Je m'en occuperai moi-même. Elle monta l'escalier de marbre sans un regard en arrière. Harry était sûr qu'elle allait à la bibliothèque. Tu paries combien qu'elle revient avec une boîte de badges ? Je hais Rita Skeeter, dit Ron.
Mais Hermione ne leur demanda pas de l'aider à se venger de Rita Skeeter, ce dont ils lui furent reconnaissants car la quantité de travail qu'ils avaient à faire pendant les vacances de Pâques ne cessait d'augmenter.
Harry s'émerveillait qu'Hermione trouve le temps de se consacrer à des recherches sur les méthodes d'espionnage magique en plus de tout le reste. Lui-même travaillait jusqu'à l'épuisement pour arriver à finir tous ses devoirs, tout en veillant quand même à envoyer régulièrement des provisions dans la caverne où se cachait Sirius. Après l'été qu'il avait passé, il n'avait pas oublié ce que signifiait avoir continuellement faim. Il joignait à ses paquets de victuailles des lettres pour dire à Sirius qu'il ne s'était rien passé d'inhabituel et qu'ils attendaient toujours la réponse de Percy. Edwige ne revint qu'à la fin des vacances de printemps. La lettre de Percy se trouvait dans un colis d'œufs de Pâques que Madame Wesley leur avait envoyé. Ceux de Ron et de Harry étaient aussi gros que des œufs de dragon et remplis de caramel maison. Celui d'Hermione, en revanche, était plus petit qu'un œuf de poule. En le voyant, elle fit la grimace.
« Ta mère ne lit pas Sorcière Hebdo par hasard, Ron ? » demanda-t-elle à voix basse.
« Si, répondit Ron, la bouche pleine de caramel, elle l'achète pour les recettes de cuisine. »
Hermione regarda avec tristesse son œuf minuscule.
« Tu ne veux pas lire ce qu'a écrit Percy ?» lui demanda précipitamment Harry. La lettre qu'il avait envoyée était courte et sèche.
« Comme je ne cesse de le répéter à la Gazette du Sorcier, M. Croupton prend un repos bien mérité et m'envoie régulièrement ses instructions par hibou. Non, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'on peut me faire confiance pour reconnaître l'écriture de mon propre supérieur. En tout cas, j'ai suffisamment à faire en ce moment pour ne pas perdre de temps à essayer de dissiper ces rumeurs ridicules. Je vous serai donc reconnaissant de ne plus me déranger à moins que vous n'ayez quelque chose d'important à me dire. Joyeuse Pâques !»
En temps normal, au début du troisième trimestre, Harry aurait dû suivre un entraînement intensif en vue du dernier match de Quidditch de la saison. Mais cette année, c'était à la troisième tâche du tournoi des trois sorciers qu'il devait se préparer, sans savoir toutefois en quoi elle allait consister. Enfin, dans la dernière semaine de mai, le professeur McGonagall le retint à la sortie d'un cours de métamorphose.
« Potter, vous devez vous rendre au terrain de Quidditch ce soir à 9h, lui dit-elle. Monsieur Verpé vous y attendra pour indiquer au champion la nature de la troisième tâche. »
À 8h30, ce soir-là, Harry laissa Ron et Hermione dans la salle commune de Gryffondor et descendit les escaliers. Lorsqu'il arriva dans le hall d'entrée, Cédric apparut à son tour, sortant de Poufsouffle, et ils se rendirent ensemble au terrain de Quidditch, sous le ciel nocturne, chargé de nuages.
« Qu'est-ce que ça va être, à ton avis ?» demanda Cédric. « Fleur est persuadée qu'il va falloir découvrir un trésor caché dans des souterrains. »
« Ce ne serait pas trop mal, » dit Harry en songeant déjà qu'il lui suffirait de demander à Hagrid de lui prêter un nifleur pour faire le travail à sa place. Ils traversèrent la pelouse, plongés dans l'obscurité, et entrèrent sur le terrain de Quidditch, en passant entre deux rangées de gradins.
« Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué ?»
s'indigna Cédric en s'arrêtant net. Le terrain avait cessé d'être plat et lisse. Il était sillonné de longs murs bas qui serpentaient et se croisaient en tous sens. « Ce sont des haies, » dit Harry qui s'était penché pour regarder de plus près.
« Bonjour !»
lança une voix joyeuse. Ludo Verpé se tenait au milieu du terrain en compagnie de Krum et de Fleur. Harry et Cédric s'avancèrent vers eux en enjambant les haies et Fleur fit un grand sourire à Harry. Son attitude envers lui avait complètement changé depuis qu'il avait sorti sa sœur du lac.
« Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?»
dit Verpé d'un air ravi lorsque Harry et Cédric eurent franchi la dernière haie.
« Elle pousse bien long. Encore un mois et grâce aux bons soins de Hagrid, elles auront atteint 6 mètres de hauteur. Vous inquiétez pas, »
ajouta-t-il avec un sourire en voyant leur expression déconfite,
« votre terrain de Quidditch sera remis en état dès que la tâche sera terminée. J'imagine que vous avez deviné ce qu'on est en train d'installer. »
Pendant un instant, tout le monde resta silencieux, puis...
« Un labyrinthe, » grommela Krum.
« Exactement, » approuva Verpé, « un labyrinthe. Le principe de la troisième tâche est tout simple. Le trophée du tournoi sera placé au centre de ce labyrinthe. Le premier champion qui l'atteindra recevra la note maximum.
« Il suffit simplement de trouver son chemin dans le labyrinthe ?» demanda Fleur.
« Oui, bien sûr, il y aura des obstacles. »
répondit Verpé d'un air guiré en se balançant d'avant en arrière.
« Hagrid va nous fournir quelques créatures pour pimenter l'épreuve. Il y aura aussi des mauvais sorts qu'il faudra conjurer, des tas de choses dans ce genre-là. Les champions qui ont actuellement le plus grand nombre de points pénétreront les premiers dans le labyrinthe. »
Verpé adressa un grand sourire à Harry et à Cédric.
« Ensuite, ce sera au tour de M. Krum, puis à celui de Miss de la Cour. Mais chacun aura sa chance. Tout dépendra de la façon dont vous parviendrez à franchir les obstacles. Ça devrait être amusant, non ?»
Harry, qui était bien placé pour savoir quel genre de créature Hagrid était capable de fournir en semblables circonstances, doutait fort qu'il puisse trouver matière à s'amuser. Mais il se contenta de hocher poliment la tête, comme les autres champions.
« Parfait. Si vous n'avez pas de questions à poser, nous pouvons tout de suite rentrer au château. Fait un peu froid dehors. »
Tout le monde prit le chemin de la sortie et Verpé se précipita aux côtés de Harry. Celui-ci s'attendait à ce que Verpé lui propose à nouveau son aide. Mais au même instant, il sentit quelqu'un lui tapoter l'épaule. C'était Krum.
« Harry, je pourrais te parler ?»«
Oui, bien sûr, » répondit Harry, légèrement surpris.
« Allons faire un tour, tu veux bien ?»«
Ok, » dit Harry avec curiosité. Verpé eut l'air un peu décontenancé.
« Je t'attends, Harry, d'accord ?»«
Oh, c'est pas la peine, monsieur Verpé, » répondit Harry en réprimant un sourire. « Je crois que je saurai retrouver tout seul le chemin du château. » Harry et Krum quittèrent le stade ensemble. Mais Krum ne prit pas la direction du vaisseau de Durmstrang. Il marcha vers la forêt. « Pourquoi on va par là ?» demanda Harry au moment où il passait devant la cabane de Hagrid et le carrosse illuminé de beaux bâtons.
« Je ne voudrais pas qu'elle en surprenne notre conversation, » répliqua vivement Krum.
Lorsqu'ils eurent enfin atteint un coin suffisamment à l'écart pour ne pas risquer d'être entendus, Krum s'arrêta dans l'obscurité des arbres et se tourna vers Harry.
« Je voudrais savoir, » dit-il le regard flamboyant, « ce qu'il y a entre toi... « Et Hermione ?»
Harry, qui s'était attendu à quelque chose de beaucoup plus sérieux en voyant les airs mystérieux de Krum, le regarda d'un air stupéfait.
« Rien !» répondit-il.
Mais le regard de Krum flamboya de plus belle, et Harry, qui remarqua une fois de plus à quel point il était grand, lui donna quelques explications. « Nous sommes amis, mais elle n'est pas ma petite amie, et elle ne l'a jamais été.
C'est cette Rita Skeeter qui a tout inventé.
Hermione parle très souvent de toi,
dit Krum en regardant Harry d'un air soupçonneux.
Oui, dit Harry, c'est parce que nous sommes amis.
Il avait du mal à croire qu'il était en train d'avoir une telle conversation avec Victor Krum, le célèbre joueur de Quidditch international. C'était comme si, à 18 ans, Krum considérait Harry comme un égal, un véritable rival.
Tu n'as jamais, vous n'avez pas.
Non, répondit Harry d'un ton ferme. Krum parut un peu plus heureux. Il regarda Harry quelques instants, puis dit
« Tu es très bonne sur un balai. Je t'ai regardé pendant la première tâche. »«
Merci, » répondit Harry avec un grand sourire et l'impression soudaine d'avoir lui-même grandi de plusieurs centimètres. « Moi, je t'ai vu à la Coupe du Monde, la fin de Vronsky. C'était vraiment... » Quelque chose bougea dans les arbres derrière Krum. Et Harry, qui avait l'expérience des créatures que cachait la forêt, saisit instinctivement Krum par le bras et le tira vers lui.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Harry hocha la tête en regardant l'endroit suspect et plongea la main dans sa poche pour prendre sa baguette magique. Un instant plus tard, un homme sortit en titubant de derrière un grand chêne. Harry ne le reconnut pas immédiatement, puis il comprit qu'il s'agissait de M. Croupton. On aurait dit qu'il venait de faire un voyage de plusieurs jours. Sa robe de sorcier était déchirée et tachée de sang à la hauteur des genoux. Son visage portait des égratignures, il avait une barbe de plusieurs jours, le teint grisâtre, l'air épuisé. Ses cheveux, d'ordinaire si bien coiffés, auraient eu besoin d'un shampoing et d'une bonne coupe. Sa moustache elle-même paraissait beaucoup moins nette que d'habitude, mais son comportement était plus étrange encore que son apparence. Marmonnant, gesticulant, M. Croupton semblait parler à quelqu'un que lui seul pouvait voir. Il rappelait d'une manière saisissante un vieux clochard que Harry avait vu un jour en allant faire des courses en compagnie des Dursley. Lui aussi parlait tout seul en faisant de grands gestes. La tante Pétunia avait attrapé la main de Dudley et l'avait entraîné sur le trottoir d'en face pour éviter de passer devant lui. L'oncle Vernon avait ensuite gratifié la famille d'un long discours sur le traitement qu'il conviendrait, selon lui, de réserver aux mendiants et aux vagabonds.
« C'est un des juges, non ?»
dit Krum en regardant attentivement M. Croupton.
« Il n'était pas votre ministre ?»
Harry approuva d'un signe de tête, puis il s'approcha lentement de M. Croupton, qui ne lui prêta aucune attention et continua de parler à l'arbre devant lequel il se tenait.
« Et lorsque vous aurez terminé, Ouistili, vous enverrez un hibou à Dumbledore pour lui confirmer le nombre d'élèves de Durmstrang qui assisteront au tournoi. Karkaroff vient de nous informer qu'il serait 12. »
« Monsieur Croupton, » dit prudemment Harry.
« Ensuite, vous enverrez un autre hibou à Madame Maxime, parce qu'il se peut qu'elle veuille augmenter le nombre des élèves qui l'accompagneront, maintenant que Karkaroff a limité les siens à 12. Faites cela le plus vite possible, Ouistili, n'est-ce pas ?»
Monsieur Croupton avait les yeux exorbités. Il fixa le tronc de l'arbre en marmonnant des paroles incompréhensibles, puis vacilla et tomba à genoux. « Monsieur Croupton ?» dit Harry à haute voix. « Que se passe-t-il » Les yeux de Barty Croupton roulèrent dans leurs orbites. Harry se tourna vers Krum, qui l'avait rejoint, et regardait Croupton d'un air anxieux.
« Qu'est-ce qui lui arrive ?»«
Aucune idée, » murmura Harry. « Il faudrait peut-être aller chercher quelqu'un. »«
Dumbledore !»
dit M. Croupton d'une voix haletante. Il tendit la main et s'agrippa à la robe de Harry, qu'il tira vers lui, mais ses yeux se fixèrent quelque part au-dessus de sa tête.
« Je dois voir Dumbledore !»
« D'accord, » dit Harry. « Si vous voulez bien vous relever, M. Croupton, je vous accompagnerai. »«
J'ai fait des choses stupides !» murmura M. Croupton dans un souffle.
Il avait l'air complètement fou. Ses yeux exorbités continuaient de rouler dans leurs orbites et un filet de salive coulait sur son menton. Chaque mot qu'il prononçait semblait lui coûter un terrible effort.
« Faut dire Dumbledore !»
« Levez-vous, Monsieur Croupton, » dit Harry à haute et intelligible voix. « Levez-vous, je vais vous amener auprès de Dumbledore !» Les yeux de M. Croupton roulèrent à nouveau avant de se poser sur Harry.
« Qui ? Vous ?»«
Je suis un élève de l'école, » répondit Harry, qui se tourna vers Krum en espérant un peu d'aide, mais Krum restait en retrait, l'air de plus en plus inquiet.
« Vous n'êtes pas avec lui ?» murmura Croupton, la mâchoire tombante.
« Non, » répondit Harry, sans avoir la moindre idée de ce que Croupton voulait dire.
« Du côté... Dumbledore ?»«
C'est ça, » assura Harry. Croupton le tira un peu plus vers lui. Harry essaya de lui faire lâcher prise, mais sa main serrait sa robe avec une force incroyable.
« Avertir Dumbledore.
Si vous me lâchez, je vais aller chercher Dumbledore, promit Harry. Lâchez-moi, monsieur Croupton, et je le ramène ici.
Merci, Weasley. Et quand vous aurez fini, j'aimerais bien une tasse de thé.
Ma femme et mon fils ne vont pas tarder à arriver. Nous devons aller à un concert ce soir avec monsieur et madame Fudge.
Croupton avait recommencé à parler à l'arbre sans aucune difficulté d'élocution et semblait ne plus s'apercevoir de la présence de Harry. Celui-ci fut tellement surpris qu'il ne s'aperçut pas tout de suite que Croupton l'avait lâché.
« Oui, mon fils a obtenu 12 buses. C'est très satisfaisant, en effet. Merci. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je ne vous cache pas que j'en éprouve une certaine fierté. Et maintenant, pourriez-vous m'apporter ce mémorandum du ministre de la Magie d'Andorre? Je pense que je vais avoir le temps de rédiger une réponse. »
« Reste ici avec lui, » dit Harry à Croum. « Je vais chercher Dumbledore, ça ira plus vite. Je sais où est son bureau. »«
Il est fou !»
dit Croum d'un air dubitatif en regardant Croupton qui continuait de parler à l'arbre, apparemment convaincu qu'il s'agissait de Percy. « Reste avec lui, » répéta Harry. Il se tourna vers le château, mais le mouvement qu'il fit déclencha un autre changement brusque dans l'attitude de M. Croupton qui l'attrapa violemment par les genoux et le fit tomber par terre.
« Ne me laissez pas, » murmura-t-il les yeux à nouveau exorbités. Je me suis enfui. Il faut prévenir Dumbledore. C'est ma faute. C'est entièrement ma faute. Bertha, morte. C'est ma faute. Mon fils, c'est ma faute. Dites à Dumbledore, Harry Potter, le seigneur de ténèbres, plus puissant, Harry Potter.
J'irai chercher Dumbledore si vous me lâchez, s'exclama Harry. Il jeta un regard furieux à Croum. « Tu voudrais bien m'aider, s'il te plaît ?» Avec une appréhension extrême, Croum s'avança et s'accroupit à côté de M. Croupton. « Fais attention qu'il ne s'en aille pas, » dit Harry en se dégageant de l'étreinte de M. Croupton. « Je reviens avec Dumbledore. »«
Dépêche-toi, d'accord ?» cria Croum
tandis que Harry partait en courant vers le château. Le parc était désert. Verpé, Cédric et Fleur avaient disparu. Harry monta les marches de pierre 4 à 4, fonça dans le hall d'entrée et s'engouffra dans l'escalier de marbre en direction du deuxième étage. 5 minutes plus tard, il se précipita vers une gargouille de pierre située au milieu d'un couloir vide. « Sorbet citron !» dit-il hors d'haleine. Il s'agissait du mot de passe qui donnait accès à l'escalier secret menant au bureau de Dumbledore. Ou plutôt, c'était le mot de passe en vigueur 2 ans auparavant, mais de toute évidence il avait changé car la gargouille resta immobile en regardant Harry d'un air mauvais.
« Bouge !» s'écria Harry. « Mais tu vas bouger, oui ?»
Mais rien à Poudlard n'avait jamais consenti à bouger d'un millimètre simplement parce qu'on se mettait à crier. Il savait donc qu'il était inutile d'insister. Harry scruta le couloir désert. Peut-être Dumbledore se trouvait-il dans la salle des professeurs. Il se mit à courir à toutes jambes en direction de l'escalier.
« Potter !»
Harry s'immobilisa en dérapant sur le sol et regarda par-dessus son épaule. Rogue venait de surgir de l'escalier secret derrière la gargouille de pierre. Le mur se referma dans son dos en glissant silencieusement, tandis que Rogue faisait signe à Harry de s'approcher de lui.
« Qu'est-ce que vous faites ici, Potter ? » demanda-t-il.
« Il faut absolument que je voie le professeur Dumbledore, » répondit Harry en courant vers Rogue, devant qui il s'arrêta dans un nouveau dérapage. « C'est à cause de Monsieur Croupton. Il vient d'arriver. Il est dans la forêt. Il demande... »«
Qu'est-ce que vous racontez encore comme bêtise ?»
coupa Rogue, les yeux noirs et brillants.
« De quoi parlez-vous »«
Monsieur Croupton !» s'écria Harry. « Monsieur Croupton du ministère, il est malade, je ne sais quoi, il est dans la forêt, il veut voir Dumbledore. Donnez-moi le mot de passe pour... »«
Le directeur est occupé, Potter !»
dit Rogue, ses lèvres minces retroussées en un horrible sourire.
« Il faut absolument que je parle à Dumbledore !» s'exclama Harry.
« Vous ne m'avez donc pas entendu, Potter ?» Harry sentait que Rogue, en le voyant dans cet état de panique, prenait un plaisir d'autant plus intense à lui refuser ce qu'il demandait. « Écoutez, » dit Harry, « Croupton n'est pas dans son état normal. Il n'a plus toute sa tête. Il dit qu'il veut avertir. » Le mur de pierre s'écarta alors derrière Rogue, et Dumbledore apparut dans l'ouverture, vêtu de sa longue robe verte, l'air quelque peu intrigué.
« Y aurait-il un problème ?»
demanda-t-il en regardant alternativement Harry et Rogue.
« Professeur !» s'écria Harry avant que Rogue ait pu dire un mot. « Monsieur Croupton est ici. Il est dans la forêt. Il veut vous parler. »
Harry s'attendait à ce que Dumbledore lui pose des questions, mais à son grand soulagement, il n'en fit rien.
« Conduis-moi là-bas »
dit-il en lui emboîtant le pas. Rogue resta seul devant la gargouille, tellement furieux de voir Harry obtenir ce qu'il voulait que son visage en devint plus repoussant que jamais.
Qu'est-ce qu'a dit Monsieur Croupton ?
Interrogea Dumbledore, alors qu'il descendait rapidement l'escalier de marbre. Il a dit qu'il voulait vous avertir, qu'il avait fait quelque chose de terrible. Il a parlé de son fils, de Bertha Jorkins et de Voldemort, en disant qu'il était devenu plus puissant.
« Vraiment ? »
murmura Dumbledore. Et il pressa le pas tandis qu'il s'enfonçait dans l'obscurité du parc. « Son comportement n'est pas normal, » reprit Harry en marchant plus vite pour se maintenir à la hauteur de Dumbledore. « Il a l'air de ne plus savoir où il est. Il parle comme s'il s'adressait à Percy Weasley, et puis tout d'un coup, il dit qu'il a besoin de vous. Je l'ai laissé avec Victor Krum. »«
Avec Krum ?»
répéta Dumbledore d'un ton brusque. Il se mit à marcher encore plus vite, obligeant Harry à courir pour ne pas se laisser distancer.
« Est-ce que tu sais si quelqu'un d'autre a vu M. Croupton ?»«
Je ne crois pas, » répondit Harry. « Krum et moi, nous étions en train de parler. M. Verpé venait de nous expliquer en quoi consistait la troisième tâche. On est resté derrière les autres, et c'est à ce moment-là que M. Croupton est sorti de la forêt. »«
Où sont-ils ?»
Un peu plus loin, le carrosse de Beaubaton se dessinait dans l'obscurité. « Là-bas !» dit Harry en passant devant Dumbledore pour lui montrer le chemin. Il n'entendait plus la voix de Croupton, mais il savait où il allait. L'endroit se trouvait à proximité du carrosse, quelque part dans les environs.
« Victor ? Victor ?»
cria Harry. Personne ne répondit. « C'est là qu'ils étaient, » dit Harry. « Je les ai laissés tout près d'ici. »«
Lumos ! »
dit Dumbledore, allumant sa baguette magique qu'il pointa devant lui. Son mince faisceau de lumière se promena d'un tronc à l'autre en éclairant le sol. Tout à coup, il se posa sur une paire de pieds. Harry et Dumbledore se précipitèrent. Krum était étendu de tout son long sur le sol de la forêt, apparemment inconscient. Il n'y avait pas trace de M. Croupton. Dumbledore se pencha sur Krum et releva doucement une de ses paupières.
« Stupéfixé !»
dit-il à voix basse. Il scruta l'obscurité qui régnait entre les arbres, ses lunettes en demi-lune, scintillant à la lueur de la baguette magique. « Vous voulez que j'aille chercher quelqu'un ?» demanda Harry. « Madame Pomfraîche ?»«
Non !» dit Dumbledore. « Reste ici !»
Il leva sa baguette magique et la dirigea vers la cabane de Hagrid. Harry vit sortir de la baguette quelque chose d'argenté qui fila parmi les arbres, comme un oiseau fantomatique. Puis, Dumbledore se pencha à nouveau sur Krum, pointa sa baguette vers lui et murmura «
« Enervatum !»
Krum ouvrit les yeux, les hébétés. Lorsqu'il vit Dumbledore, il essaya de se redresser, mais Dumbledore posa une main sur son épaule pour le faire tenir tranquille.
« Il m'a agressé !»
bredouilla Krum en mettant une main sur son front.
« Le vieux fou m'a agressé. J'ai regardé pour voir où était passé Harry Potter et il m'a attaqué par derrière. Restez tranquille, ne bougez pas pour l'instant. »
dit Dumbledore. Des bruits de pas qui martelaient le sol comme un tonnerre retentirent alors derrière eux et Hagrid apparut hors d'haleine, son arbalète à la main, croque dur sur ses talons.
« Professeur Dumbledore »
s'exclama-t-il les yeux écarquillés.
« Harry, qu'est-ce que... »«
Hagrid, il faut que vous alliez chercher le professeur Karkaroff, »
dit Dumbledore.
« Son élève a été attaqué. Quand vous l'aurez prévenu, soyez assez aimable pour avertir également le professeur Maugrey. »
« Inutile, Dumbledore !»
grogna une voix essoufflée.
« Je suis là !»
Maugrey s'avança vers eux de son pas claudiquant, s'appuyant sur son bâton, sa baguette magique allumée.
« Fichu jambe !»
marmonna-t-il avec fureur.
« J'aurais pu être là plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rogue a parlé de Croupton. »«
Croupton ?»
dit Hagrid déconcerté.
« Hagrid, s'il vous plaît, allez chercher Karkaroff !»
répéta sèchement Dumbledore.
« Ah oui, 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 bien sûr, professeur !»
Hagrid fit volte-face et disparut dans l'obscurité, suivi par Croupton.
« J'ignore où est Barty Croupton, » dit Dumbledore à Maugrey, « mais il faut absolument le retrouver. »«
Je m'en occupe, » grogna Maugrey.
Il pointa sa baguette magique devant lui et s'enfonça dans la forêt. Dumbledore et Harry restèrent silencieux, jusqu'à ce qu'ils entendent à nouveau le bruit de pas caractéristique de Hagrid, qui revenait avec Croupton. Karkaroff se hâtait derrière eux, vêtu de sa fourrure argentée, le teint pâle, l'air anxieux.
« Qu'est-ce qui s'est passé ? »
s'écria-t-il lorsqu'il vit Krum étendu sur le sol, Harry et Dumbledore à ses côtés.
« J'ai été agressé !»
dit Krum qui s'était assis et se massait la tête.
« C'est Monsieur Croupton !»«
Croupton vous a agressé ! Vous avez bien dit Croupton ? Le juge des tournois ?»«
Igor !»
commença Dumbledore.
Mais Karkarov se redressa, serrant sa fourrure autour de lui, le visage livide. « Trahison !» s'exclama-t-il, le doigt pointé sur Dumbledore. « C'est un complot. Vous et votre ministre de la magie m'avez attiré ici sous des prétextes fallacieux, Dumbledore. Cette compétition n'est pas loyale. D'abord, vous vous arrangez pour introduire clandestinement Potter dans le tournoi, bien qu'il n'ait pas l'âge minimum. Mais maintenant, l'un de vos amis du ministère essaie de mettre mon champion hors d'état de concourir. Toute cette affaire est entachée de duplicité et de corruption. Et vous, Dumbledore, vous, avec vos grands discours sur l'amitié internationale entre sorciers, sur la nécessité de renouer les liens du passé, d'oublier les anciennes différences, voilà ce que je pense de vous. » Karkarov cracha sur le sol au pied de Dumbledore. Un mouvement vif. Hagrid le saisit aussitôt par le col de sa fourrure, le souleva en l'air et le plaqua contre un tronc d'arbre.
« Des excuses !»
exigea Hagrid d'un ton menaçant, tandis que Karkarov, les jambes pendantes, suffoquées, étranglées par le poing massif de Hagrid, qui lui écrasait sa gorge.
« Hagrid, non !»
s'exclama Dumbledore, le regard étincelant. Hagrid lâcha Karkarov, qui glissa le long du tronc et s'effondra par terre en une masse informe. Quelques brindilles et des feuilles d'arbre lui tombèrent sur la tête.
« Hagrid, vous serez aimable de raccompagner Harry au château, »
dit Dumbledore. Respirant profondément, Hagrid lança à Karkarov un regard noir.
« Je ferais peut-être mieux de rester avec vous, monsieur le directeur. »«
Hagrid, vous allez raccompagner Harry au château, »
répéta Dumbledore d'un ton sans réplique.
« Emmenez-le directement à la tour de Gryffondor. Et Harry, je veux que tu y restes. Tout ce que tu pourrais avoir envie de faire... « Envoyer des hiboux, par exemple, attendra jusqu'à demain matin, tu m'as bien compris ?»«
Oui, » dit Harry en le regardant d'un air intrigué. Comment Dumbledore avait-il pu deviner qu'en cet instant précis, il songeait à envoyer Coxicru porter une lettre à Sirius pour lui raconter tout ce qui venait de se passer ?«
Je vous laisse croque dur, monsieur le directeur, » dit Hagrid.
Il continuait de lancer des regards menaçants à Karkarov, toujours étalé par terre, empêtré dans ses fourrures et les racines de l'arbre.
« Tu restes ici, Croque-Dur. Viens avec moi, Harry. »
Ils s'éloignèrent en silence, passèrent devant le carrosse de Beaubaton, puis traversèrent le parc en direction du château.
« Comment ose-t-il ? »
grogna Hagrid lorsqu'ils atteignirent la rive du lac.
« Comment ose-t-il accuser Dumbledore ? Comme si Dumbledore était capable de faire une chose pareille. Comme si Dumbledore avait voulu que tu participes au tournoi. Il y a longtemps que je n'avais pas vu Dumbledore aussi inquiet. Et toi ?»
ajouta brusquement Hagrid en se tournant vers Harry avec colère.
« Qu'est-ce que tu faisais à te balader dehors avec ce fichu Krum ?»
Harry le regarda d'un air stupéfait.
« Enfin, rends-toi compte, il vient de Durmstrang, il aurait pu te jeter un mauvais sort. Il ne t'a donc rien appris, mon gré. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu te laisses entraîner dans un coin désert ?»«
Krum n'a rien fait de mal, » protesta Harry. « Il n'a pas du tout essayé de me jeter un sort, il voulait simplement me parler d'Hermione. »«
Elle aussi, j'ai deux mots à lui dire, »
gronda Hagrid d'un air sévère, en montant d'un pas lourd les marches du château.
« Moins vous fréquenterez ces étrangers, mieux ça vaudra pour vous. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. »
« Vous aviez pourtant l'air de bien vous entendre avec Madame Maxime, » répliqua Harry, agacé.
« Oh, celle-là ne m'en parle pas !»
lança Hagrid. Pendant un instant, il parut terrifiant.
« Maintenant, je sais à quoi m'en tenir avec elle. Elle a essayé de m'amadouer pour que je lui raconte tout ce qui attend les champions dans la troisième tâche. Je te dis qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. »
Hagrid était de si mauvaise humeur que Harry ne fut pas mécontent de prendre congé de lui devant le portrait de la grosse dame. Il se glissa par l'ouverture qui donnait accès à la salle commune et se hâta d'aller rejoindre Ron et Hermione, assis dans un coin, pour leur raconter ce qui venait de se passer.